autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs. Autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, nous remonterons le temps jusqu'avant le Big Bang, carrément, avec Fabrice Nicot de Science et Avenir, en quête d'univers passé et parallèle. Accrochez-vous, car il sera aussi question de l'image du corps et de sa cartographie dans notre cerveau, en particulier la place qui prend le pénis. Pourquoi dans la carte tactile de notre cerveau, le pénis se loge-t-il sous le pied, voire entre les orteils ? Piste de réponse cérébrale et génitale de Cécile Estienne de Cerveau et Psycho. On continue à se rhabiller pour l'hiver, ou plutôt pour aller sur la Lune, avec Mathilde Fontaise d'Epsilon, sauf que justement, aucune combinaison spatiale ne permet pour le moment d'y retourner sur la Lune. C'est un vrai défi, un casse-tête pour la NASA de concevoir une combinaison spatiale assez souple et résistante pour un séjour prolongé sur la Lune. On restera dans l'espace, mais depuis la Terre, pour faire de l'astronomie participative avec Guillaume Langin de Ciel et Espace, en observant collectivement comment un astéroïde peut éteindre une étoile. Et puis nous reviendrons sur Terre pour nous demander entre science et science-fiction avec Thomas Delosier de Science et vie, comment roulerons-nous demain ? Avec quel véhicule les propositions les plus électriques et les plus éclectiques sont de mise aujourd'hui autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous ? Bienvenue. Bienvenue Cécile, Mathilde, Thomas, Fabrice et Guillaume. Bonjour à vous tous.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Avant de partager notre infusion de science mensuelle et de partager votre science et vos magazines, je voudrais d'abord rendre hommage à un formidable journaliste en cette journée, justement, qui est celle d'un triste anniversaire il y a 9 ans, celle de l'assassinat de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, nos reporters à Kidal. Ben moi, je voudrais rendre hommage à un formidable journaliste, grand reporter et écrivain, Marc Ravetz, grâce à qui j'ai démarré il y a pas mal d'années déjà au service international du journal Libération. C'est l'interdisciplinaire et très indiscipliné Marc Ravetz, mort vendredi dernier à l'âge raisonnable de 80 ans, qui m'a ouvert les portes et donné le goût d'un journalisme exigeant et décalé, ouvert sur le monde, l'ailleurs et les autres, tous les autres. Puisque Marc Ravetz, grand reporter, prix Albert Londres, spécialiste du Proche-Orient, était aussi, entre autres, passionné par les animaux, le panda d'abord, mais aussi le chameau de Bactriane, les poules pondeuses et même les cacatoès, pour ne citer que quelques-uns de ces animaux dont il a fait le portrait sur France Culture. Il faut dire qu'il avait une sacrée plume, un sacré bagout et le goût de la littérature. Il suffit de se replonger dans ses grands reportages pour Libération, au Liban ou en Iran, qui ont marqué et inspiré toute une génération de journalistes. Adieu, Yallah, Marc Ravetz, que la terre te soit légère. Et puisque cette terre du Moyen-Orient notamment t'était si chère et que tu suivais de près toutes ses actualités, je voudrais clore cet hommage à Marc Ravetz par une chanson pour tous les Iraniens et les Iraniennes, pour toutes les femmes iraniennes qui enlèvent leur voile aujourd'hui, pour tous les hommes iraniens qui les soutiennent, pour tous les Iraniens qui sont pour la liberté de corps et d'esprit. C'est barailler en persan, ça veut dire pour danser dans la rue, pour ne plus avoir peur de s'embrasser, barailler, morceau devenu l'hymne du soulèvement en Iran, signé Shervin Hajipour sur RFI.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای
گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Boroyer pour danser dans la rue, pour s'embrasser sans peur. Le tube de Shervin Hajipour, repris par une cinquantaine de personnalités françaises qui interprètent en persan cette chanson en soutien au peuple iranien, à découvrir sur le site de RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse depuis les laboratoires jusque dans vos rédactions, il est temps de remonter au commencement, aux origines et même avant le Big Bang. Qu'y avait-il ? Question un peu folle entre science et science-fiction, question à remonter le temps que vous nous proposez dans Science et Avenir, Fabrice Nicot. Bonjour Fabrice.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors vous êtes malheureusement en liaison téléphonique un peu améliorée, car vous avez eu un souci de santé, heureusement rien de grave. On est avec vous de tout cœur Fabrice, et on attend avec impatience que vous nous dévoiliez l'inimaginable, l'inconnaissable. Qu'est-ce qu'il y avait avant notre univers, avant le Big Bang? Plusieurs théories s'affrontent, je crois.
Oui, 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 mais d'abord, comme vous dites si bien, c'est un peu inimaginable de se poser la question de l'avant Big Bang, puisque le Big Bang, normalement, c'est le début de tout, y compris du temps. Si on suit la relativité générale qui décrit très bien notre univers aujourd'hui. Donc le Big Bang a vu naître l'espace, le temps, donc a priori se poser la question de qu'est-ce qu'il y avait avant le temps, ça revient un peu à se demander, c'est une remarque qui revient souvent chez les cosmologistes, qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord, vous voyez?
Oui, c'est ça. Et pourtant, il se pose la question. Et il y a même des très sérieux astrophysiciens qui ont des pistes pour remonter avant le temps.
Mais oui, parce que c'est bien beau de dire que le Big Bang, c'est la singularité, le début de tout. Mais vous avez dans le Big Bang, toujours selon la relativité générale, vous avez donc un temps zéro, un espace nul et une densité d'énergie infinie. Et tout ça, c'est pas très physique en fait. Hein. Zéro et l'infini, c'est plutôt du côté des maths. Donc les physiciens se sont jamais vraiment satisfaits de ça. Et ils veulent éviter, ils veulent contourner cette singularité, démontrer qu'en fait, elle n'existe pas. Et c'est si on arrive à trouver une théorie alternative à la singularité qu'elle ouvrira nécessairement une porte vers un avant-Big Bang qui ne sera plus l'événement fondateur.
Donc avant le Big Bang, il pourrait y avoir eu quoi ? Plusieurs univers, il y a même une théorie d'éternel retour. Je ne sais pas si on est en astrophysique ou en métaphysique, mais quelles sont les théories qui s'affrontent sur avant le temps, avant le Big Bang, avant le début, avant tout, Fabrice Nicot ?
Oh, ben c'est sûr que c'est un domaine où la physique et la philosophie font bon ménage. Mais oui, alors, dans les théories, dans les hypothèses les plus actuelles, on peut tout à fait imaginer qu'avant le Big Bang, il y a eu un autre univers qui a fini par se contracter sur lui-même jusqu'à devenir tout proche de la singularité, mais pas une singularité. Il n'a pas atteint un espace zéro et un temps zéro. Il a rebondi, entre guillemets. Et ça, c'est une conséquence d'une des théories très étudié actuellement, notamment par Carlo Rovelli ou Algarve.
Les grands physiciens actuels.
Voilà, et qui est la gravitation quantique à boucle. Alors, c'est un nom absolument charmant. Mais en gros, avec cette théorie, on évite la singularité, puisqu'en fait, l'espace ne peut pas se contracter au-delà de 10 moins 35 mètres. Alors, vous me direz, c'est pas beaucoup, oui, mais c'est pas zéro. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on évite le zéro, donc on évite les infinis. Et une des conséquences, si on tire les équations de la gravitation quantique à boucle, ben c'est ça. C'est un univers qui, finalement, aurait rebondi sur lui-même pour donner le nôtre aujourd'hui.
Il y a aussi d'autres théories, je crois que vous citez un autre grand physicien, Roger Penrose, sur les traces qu'il recherche d'univers précédents, c'est ça ? Je ne sais plus si on est dans la science ou dans la science-fiction, mais c'est ce que j'ai lu en tout cas dans Science et Avenir.
Voilà, ben, c'est-à-dire que parmi toujours les différentes théories qui tentent de contourner le Big Bang, vous avez par exemple la théorie des cordes, hein, qui revient à, là aussi, décrire une gravitation quantique qui évite la singularité initiale. Mais cette fois-ci, alors, elle a d'autres conséquences. Alors là, je ne parle pas de Penrose, mais plutôt de la théorie de l'inflation.
Oui.
La théorie de l'inflation éternelle. Alors là, c'est très
l'inflation éternelle. Ah ouais, c'est joli.
Mais oui, parce que plutôt que d'imaginer un point zéro d'où l'univers a grandi, eh ben il faut imaginer maintenant qu'en réalité des points d'où l'univers grandit, il y en aurait plein partout encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'univers serait en quelque sorte comme un arbre, avec de temps en temps des branches qui poussent. Les branches qui poussent, c'est une inflation quelque part. Et puis après, l'inflation se calme, comme c'est le cas pour nous, et la branche poursuit sa marche tranquille. Mais l'univers serait ainsi vu comme une sorte de multivers, c'est-à-dire avec plein d'embranchements, avec en plus dans chaque embranchement, éventuellement, des lois physiques différentes, etc. Enfin, ça nous offre énormément de possibilités, y compris des réponses.
Et oui, multi-possibilités, multivers, pour en savoir plus sur toutes ces théories scientifiques, un peu de science-fiction, un peu de philosophie aussi, d'avant le Big Bang et sur cette quête d'univers passé ou existant, de multivers, dossier complet, un peu azimuté, je dois dire, mais très sérieux, à lire dans Science et Avenir de ce mois de novembre. Nous avons, je vous le rappelle, chers amis, auditrices et auditeurs, quelques exemplaires à vous offrir, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Merci Fabrice Nicot d'avoir été avec nous. À suivre maintenant un véritable défilé de mode spatial avec vous, Mathilde Fontaise d'Epsilon, pour tenter de découvrir et de fabriquer la combinaison spatiale qui nous ramènera sur la Lune. C'est loin d'être simple et ça urge juste le temps d'enfiler en musique notre space suits, notre combinaison spatiale, celle des Ghostbumps sur RFI.
My fireplace, it works all right. My chimney smokes all day and night. When it gets too much, I hold my breath. The only thing that keeps me sane, the light beneath the window pane, refractions on the wall, I tell myself to entertain it all. Sure as it is a way of life, it seems.
Dans la combinaison spatiale du groupe australien Ghostbump sur RFI autour de la question comment la science infuse et jusqu'où, Mathilde Fontaise, comment, pourquoi est-ce si difficile de concevoir la combinaison spatiale adaptée à notre retour sur la Lune. C'est le dossier, le grand dossier d'Epsilon ce mois-ci, et il y a de quoi, parce que c'est vrai que c'est un défi, mais c'est très étonnant.
Oui, c'est très étonnant, d'autant plus que là, on est dans le lancement de cette mission Artemis, hein, c'est imminent. La fusée ne s'est pas envolée comme elle le devait en septembre.
Elle n'arrive pas à s'envoler.
Elle va revenir Artemis. Sur le pas de tir ce vendredi. Elle est censée décoller le 14 novembre. Il y a d'autres fenêtres de tir. Personne ne doute quand même qu'elle va s'envoler prochainement pour un premier vol d'essai. Et ensuite, l'objectif reste celui d'envoyer un équipage pour un retour sur la Lune en 2025. Donc 2025, c'est demain. Et donc, bien évidemment, on le fait le compte de toutes les technologies nécessaires pour aller sur la Lune. Il y a bien évidemment besoin d'une fusée, d'une capsule qui est en haut de la fusée. Mm-hmm. Il y a besoin d'un atterrisseur sur la Lune qui est entre les mains de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Et on a été assez interloqués de s'apercevoir que, par contre, pour ce qui était de la combinaison, ce n'était pas du tout prêt.
Alors que c'est dans 2-3 ans, hein. C'est pour 2025.
C'est pour 2025.
Et il n'y a pas de combinaison spatiale.
Il n'y a pas de combinaison spatiale. Les experts nous ont dit que pour que la combinaison spatiale puisse partir, s'envoler en 2025, il faut qu'elle soit prête en 2023 pour pouvoir permettre aux astronautes de procéder aux essais normaux, etc. Mm-hmm. Donc c'est vraiment très, très, très près. Et en fait, ce qu'on a observé depuis un an, c'est quelque part un changement de fusil d'épaule de la NASA qui travaillait en fait quand même sur des prototypes de combinaisons spatiales. Ce qu'il faut rappeler au départ, c'est qu'il existe des combinaisons spatiales. D'abord, il y a celle d'Apollo qui a été mise au point dans les années 60 qui pourrait être réutilisée. On pourrait se dire, bah oui, on en a une. On est déjà allé sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas refaire la même combinaison? Sauf que le problème, c'est que cette combinaison n'est pas forcément adaptée d'une part aux normes de sécurité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, Apollo, c'était quand même un petit peu, des cow-boys, quoi. On avait peut-être moins de précautions. Et en plus, on a le retour d'expérience et on s'est aperçu que ces combinaisons avaient été particulièrement abîmées par notamment la poussière lunaire, ce régolithe qui recouvre toute la surface de la Lune, qui s'avère extrêmement coupant, électrostatique, qui s'insère dans tous les petits creux de la combi. Et on s'est aperçu après coup que les combinaisons d'Apollo avaient été percées sur 3 ou 4 épaisseurs. Et donc, ça pourrait mettre en danger une prochaine mission sur la Lune.
D'autant que les séjours sur la Lune, les stations sur la Lune seraient plus importantes que du temps d'Apollo.
Voilà, il y a cette volonté aussi de faire des séjours plus importants, de rendre ces combinaisons plus flexibles, plus souples, puisqu'on imagine aussi que les astronautes vont faire des choses différentes, peut-être un peu plus élaborées. Puis il y a aussi la question du lieu où va se passer cette mission, puisque, a priori, les astronautes vont déambuler plutôt du côté du pôle, vont plutôt avoir accès à des cratères qui vont être mis sous la pénombre complète pour toujours et donc à subir des variations de température beaucoup plus importantes. On va s'approcher des moins de 100 degrés.
Donc il va falloir vraiment d'une solidité absolue, une résistance, des combinaisons, une résistance absolue et souple en même temps.
Et souple en même temps. Et donc c'est toute une liste comme ça de critères. En fait, le meilleur résumé finalement de cette combinaison, c'est qu'il s'agit d'un vaisseau spatial à forme humaine doit donc intégrer tous les dispositifs techniques qui vont équiper un vaisseau spatial, que ce soit donc la gestion de la température, la protection contre la poussière, contre les radiations, l'autonomie, la communication. Par exemple, en termes de communication, on se doute bien que les astronautes ne vont pas partir avec des systèmes de communication qui datent des années 60 et donc qui vont avoir besoin d'une plus grande fluidité de communication. Bref, tout ça remis ensemble a quand même été exploré par la NASA à partir du moment, même avant l'annonce de Donald Trump pour envisager un retour sur la Lune, enfin ordonner un retour sur la Lune en 2024, qui a été repoussé en 2025. Avant ça, il y avait quand même des prototypes, il y avait un travail un peu au long cours qui était fait dans le but d'un retour sur la Lune, mais éventuel, donc avec un rythme de projet qui n'était pas celui qui était compatible avec une réalisation, etc. Et puis il y a eu un revirement au printemps dernier où la NASA tout à coup a annoncé qu'elle confiait non seulement la fabrication, parce que la fabrication, de sous-traiter la fabrication pour la NASA de certains de ces éléments techniques, c'est quelque chose de classique. Mm-hmm. Il y a tout un tas d'entreprises qui sont comme une galaxie autour de l'agence américaine qui travaillent pour elle. Sauf que là, il s'agissait de la décision de confier la conception de cette combinaison. Donc la NASA met à disposition, bien évidemment, tout son matériel technique, toutes ses études, etc. Mais quand même, elle sous-traite la conception. Et le choix de l'industriel qui va concevoir cette combinaison n'a été fait que le 7 septembre dernier.
Donc, il ne s'y est même pas mis encore à faire le patron de la combinaison.
Non seulement il ne s'y est pas mis, mais en plus il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Axiom Space, alors qui n'est pas une entreprise inconnue. Son directeur est un ancien manager de l'ISS. Cette entreprise et tous les gens dans cette entreprise sont ou des anciens de la NASA ou des anciens sous-traitants de la NASA. Sauf qu'elle n'a jamais travaillé sur une combinaison. C'est une entreprise qui, pour l'instant, fait des projets de stations spatiales en orbite basse à un grand renfort de vues d'artistes qui sont regardés avec un certain scepticisme par les observateurs. Et on a eu accès à un rapport, enfin d'ailleurs tout le monde y a accès puisque c'est la transparence absolue, la NASA, on le sait bien. Nous avons pu lire un rapport qui détaillait un peu le transfert de compétences, mm-hmm. en fait, en tout cas ce transfert de contrat entre la NASA et Axiom Space. Et les commentaires de l'experte qui rendait son verdict étaient plutôt inquiets. Et pas du tout positif.
Mais ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on pourrait repousser, et qui sera probablement repoussé, le Artemis et en tout cas cette mission sur la Lune à cause de la combinaison spatiale. Ce qui veut dire aussi que l'espace est toujours beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, et aller dans l'espace est toujours plus complexe qu'on l'imagine, Mathilde ?
Alors ça veut dire surtout que, d'une part, la politique de la NASA qui a changé en fait avec SpaceX, qui envoie désormais les astronautes dans l'ISS, alors qu'avant c'était toujours des agences qui le faisait, cette politique s'applique et elle n'a pas vocation à faire d'exception, même dans le cadre d'une mission Artemis. Donc cette politique de confier à des industriels, c'est très simple, c'est pour réduire les coûts, c'est pour réduire les délais et c'est pour se dédouaner d'une responsabilité. Ça permet de réduire les coûts, par exemple, en se disant que la combinaison va appartenir après à celui qui l'aura fabriquée et il va pouvoir la rentabiliser. Et donc il y a une enveloppe budgétaire qui n'est pas petite, mais qui a été donnée. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de problème de dépassement budgétaire et de devoir après aller au Congrès pour s'expliquer, etc. C'est beaucoup plus simple à gérer. Cette politique est installée et elle va se poursuivre, même dans le cadre de cette mission emblématique qui est la mission Artemis de retour sur la Lune. Et l'autre point, c'est un peu ce qui bruisse dans tous les aspects de cette mission Artemis quelque part, c'est qu'en fait, cette date de 2025, on peut se demander si elle est réaliste. Mmh, alors, c'est une date affichée, c'est une date politique, c'est une date qui doit mettre en branle toute une industrie, etc. Pour la rendre capable de... Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit, et donc là, c'est un peu le petit grain de sable part, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que cette date, finalement, elle va sans doute pas être respectée.
Alors, pour tout savoir sur ce grain de sable, c'est pas le premier, de la mission Artemis, et sur ce casse-tête qui en dit long de la combinaison spatiale pour notre retour sur la Lune, dossier complet, assez lunaire d'ailleurs, à lire dans Epsilon de ce mois de novembre, dont vous nous avez apporté plusieurs exemplaires, Mathilde Fontaise, et on vous en remercie pour les offrir à nos auditrices et auditeurs qui vivent loin d'ici. Il vous suffit, chers amis, de nous demander par mail sur notre page Facebook, et peut-être aurez-vous la chance d'en recevoir. Soyez prêts, soyez surtout prêts à tout maintenant, car le sujet qui va suivre n'est pas à mettre entre toutes les oreilles ni sous tous les pieds. Il s'agit en effet de la manière dont est cartographié, représenté le pénis, oui, dans notre cerveau. Nous avons tous en tête une représentation de notre corps, mais où se situe le pénis? À quelle place? Quelle taille? Sous les pieds? Entre les orteils? Autre de questions neurologiques et névralgiques que nous allons soulever avec vous, Cécile Lestienne, dans Cerveau et Psycho. Juste le mystère du pénis sous le pied, c'est à suivre juste après, comment dire, une petite mise en bouche, mise en slam, signée Grand Corps Malade, le langage du corps.
Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a la tête, le cœur, les couilles, ça vous le savez déjà. Mais les autres parties du corps ont aussi leur mot à dire. Chacun veut prendre le pouvoir, et le pire est à venir. Il y a bien sûr la bouche qui a souvent une grande gueule. Elle pense être la plus farouche, mais se met souvent le doigt dans l'œil. Elle a la langue bien pendue pour jouer les chefs du corps humain. Elle montre les dents, c'est connu, mais n'a pas le cœur sur la main. Seulement la main n'a pas forcément le monopole du cœur. Elle aime bien serrer le poing, elle aime jouer les terreurs. Elle peut même faire un doigt, elle ne fait rien à moitié. La main ne prend pas de gants et nous prend vite à contre-pied. Le pied n'a pas de poils dans la main, mais manque d'ambition. Au pied levé, je dirais comme ça que le pied n'a pas le bras long. Les bras, eux, font des grands gestes pour se donner le beau rôle. Ils tirent un peu la couverture, mais gardent la tête sur les épaules. On peut être timide ou on peut parler fort. De toute façon, on sait qui décide, c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor. De toute façon, on sait qui domine, c'est le langage du corps. C'est le langage du corps. C'est le langage du corps. Quand la bouche en fait trop, la main veut marquer le coup. Pour pas prendre sa gifle, la bouche prend ses jambes à son cou. La bouche n'a rien dans le ventre, elle préfère tourner le dos. Et la main sait jouer des coudes, la tête lui tire son chapeau. Mais l'œil n'est pas d'accord et lui fait les gros yeux. Ils sont pas plus gros que le ventre, mais l'œil sait ce qu'il veut. Car l'œil a la dent dure, le corps le sait, tout le monde le voit. À part peut-être la main, qui pourrait bien s'en mordre les doigts. Et la jambe dans tout ça, eh bien elle s'en bat les reins. Elle est droit dans sa botte et continue son chemin. Personne ne lui arrive à la cheville quand il s'agit d'avancer. Même avec son talon d'Achille, elle trouve chaussure à son pied. Les pieds travaillent main dans la main et continuent leur course. Jamais les doigts en éventail, ils se tournent rarement les pouces. Ça leur fait une belle jambe, toutes ces querelles sans hauteur. Les pieds se foutent bien de tout ça, loin des yeux, loin du cœur. On peut être timide ou on peut parler fort. De toute façon, on sait qui décide, c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor. De toute façon, on sait qui domine, c'est le langage du corps. C'est le langage du corps. C'est le langage du corps. Pour raconter le corps humain, rien n'est jamais évident. Je me suis creusé la tête et même un peu cassé les dents. Alors ne faites pas la fine bouche, j'espère que vous serez d'accord que ce texte est tiré par les cheveux, mais que petit à petit, il prend corps. Je n'ai pas eu froid aux yeux, mais je reste un peu inquiet. Je croise les doigts pour qu'au final, je retombe sur mes pieds. Ne soyez pas mauvaise langue, même si vous avez deviné que pour écrire ce poème, je me suis tiré les vers du nez.
Génial, grand corps malade et son langage du corps. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, chère Cécile Estienne, c'est à vous maintenant de nous faire partager le mystère du pénis dans le pied. C'est juste le titre de l'article très sérieux publié par votre magazine Cerveau et Psycho.
Oui, le pénis sous le pied.
Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai dit dans le pied? Ben non. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Le pénis sous le pied. D'accord.
Parce que, en fait, c'est un mystère qui intrigue les chercheurs en neurosciences depuis longtemps.
Le pénis sous le pied. On est d'accord.
C'est lié à l'homoncule. L'homoncule, c'est une image de neurosciences qui est très connue. D'ailleurs, vous tapez homoncule neurosciences dans votre moteur de recherche préféré, vous allez tout de suite voir. Vous allez voir une sorte de gnome qui ressemble vaguement à Gollum, là, dans Le Seigneur des Anneaux, mais avec des mains et surtout un visage, des lèvres, une langue absolument énorme et un tout petit corps. Voilà.
Et c'est cette représentation.
Et c'est une représentation qui correspond vraiment à quelque chose, parce que c'est les différentes parties du corps de ce gnome ont une taille proportionnelle à la surface du cortex qui le représente dans le cerveau.
C'est ça, c'est-à-dire que nos mains sont énormes, notre bouche est énorme. Exactement. Dans notre cerveau.
Parce qu'elles sont très sensibles et aussi parce que la motricité de ces parties est très fine pour vos mains, pour votre bouche, pour parler et tout ça. Donc, ça nécessite des plus grandes parties de votre cortex somatosensoriel. Voilà. En fait, c'est comme... Parce que nous avons effectivement une carte tactile du corps dans le cerveau. En fait... Il y a deux demi-homoncules dans le cerveau. Pour expliquer à l'auditeur, il peut imaginer qu'il a un casque sur les oreilles pour écouter de la musique ou pour faire de la radio, Caroline. Et voilà. Et très grossièrement, tout le visage est à peu près au niveau des oreilles, puis les mains. Et puis après, le corps remonte comme en serre-tête. Donc les épaules, le torse, les genoux, remonte jusqu'au haut du sommet du crâne. Et ensuite, les pieds s'enfonce dans la ligne médiane, la ligne qui sépare les deux hémisphères du cerveau.
Voilà. C'est comme ça qu'est notre cartographie cérébrale de notre
Absolument.
Corps.
Absolument. Elle est dans l'ordre, effectivement, c'est l'ordre somatotopique, comme on dit, l'ordre de notre corps. Sauf le pénis. Le pénis qui est sous le pied, sous les orteils, voilà, dans cette représentation-là. Cette représentation-là, on la doit à un neurochirurgien canadien qui s'appelait Wilder Penfield, qui a publié ses premiers travaux en 1937, puis sa grande cartographie en 1950. Voilà. Et comme il était neurochirurgien, il opérait des gens qui étaient atteints d'épilepsie où il y avait des tumeurs qu'il fallait les enlever. Et donc, il stimulait certaines zones du cortex avec une petite stimulation électrique et il demandait aux gens...
À quoi ça correspondait dans leur corps.
Parce que ces genres d'opérations, on le fait sous anesthésie locale, justement, pour ne pas essayer d'enlever des zones très importantes du cortex. Voilà. Et donc, c'est ainsi comme ça qu'il a pu cartographier toutes ces zones dans le cerveau. Et ensuite, il a demandé à une dessinatrice médicale américaine, un peu oubliée, qui s'appelle Hortense Cantley. C'est elle qui a fait ce dessin si connu. Voilà. Lui, cette carte est issue des données de 400 patients voilà, qu'il a opérés, dont seulement 3, en fait, ont associé les sensations génitales à leurs sensations neuronales. Voilà. Alors, 3, en fait, effectivement, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Donc, c'était déjà surprenant parce que Penfield lui-même disait que les 397 autres n'avaient pas répondu par un faux sentiment de pudeur. Voilà. Donc, en fait, tout ça était lié à 3 personnes au départ. Mais cette cartographie a quand même été adoptée par les neuroscientifiques parce qu'elle a été validée par d'autres expériences après, postérieures. Et donc, on a fait avec et ça restait mystérieux. Pourquoi le pénis est-il sous les orteils?
Voilà. Sous les orteils. Et en plus, pourquoi il n'y a pas une taille plus importante de notre cerveau? Ça, on ne sait pas. C'est encore autre chose.
C'est encore autre chose. On va pouvoir en reparler après. Et puis, en 2005, alors là, une révolution neuroanatomique, voilà, de nouvelles recherches faites avec un système d'imagerie plus performant, l'IRM fonctionnel, voilà, et qui ont été faites dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on stimulait avec une brosse à dents le gros orteil, l'abdomen et le pénis des messieurs qui voulaient bien participer.
Et on regardait dans le cerveau qu'est-ce qui s'allumait.
Et on regardait ce qui se passait dans le cerveau. Et alors là, le pénis a retrouvé une place tout à fait normale, entre guillemets, c'est-à-dire entre le torse et les genoux, là où il devrait être absolument être. Voilà. Et dans tout ça, Caroline, évidemment, où est le clitoris ?
Eh ben, ça, c'est la grande question que nous nous posons, puisqu'on s'est posé la question et le mystère de la place du pénis dans notre cerveau.
Et donc, Est-ce qu'on se pose la même question ? Eh bien, en fait, il faut avouer que la science était totalement passée à côté de cette histoire-là. D'ailleurs, parmi les 400 patients de Penfield, il n'y avait que 9 femmes. Hein, donc, voilà. Et puis, du coup, ça n'a pas ému grand monde, cette histoire où il n'y avait ni vulve, ni clitoris, ni sein sur l'homoncule de Penfield. Mais voilà,
donc c'est pas grave. De toute façon, les hommes étaient évidemment les seuls existants sur Terre. Donc, c'était pas grave.
Ce qui est vrai pour les hommes devait être vrai pour les femmes. Bon. Mais évidemment, depuis, il y a eu des travaux faits sur le sujet. Et voilà, le clitoris et la vulve vont retrouver une place similaire à celle du pénis, c'est-à-dire entre le torse et les genoux. Tout ça paraît. Voilà. Donc, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Eh bien, non. Parce que d'autres études, en 2011, puis en 2020, des études faites par des Américains, eux, en faisant ce même type d'expérience, ont vu 2 zones s'activer dans le cerveau. Une, effectivement, entre le torse et les genoux, qui correspondrait à l'aine, peut-être, voilà. Et une autre qui est bien sous le pied.
Donc, on a bien un pénis ou un clitoris sous le pied, dans le cerveau.
Peut-être. Parce que c'est toujours pas tranché parmi les scientifiques hein, qui continuent à essayer de chercher et qui doivent continuer à chercher. Alors, pas par curiosité bien placée seulement, mais c'est bien de vous savoir, voilà. Mais c'est aussi parce qu'on se demande s'il n'y aurait pas des pistes thérapeutiques bien derrière. Sûr. Notamment, on s'est aperçu que chez les femmes, la zone qui est concernée par du cortex hein, est plus ou moins épaisse en fonction de la fréquence des rapports sexuels. Bon, c'est une neuroplasticité qui n'est pas si étonnante que ça, mais ça peut être des pistes de recherche, notamment parce qu'on se dit que les expériences bonnes ou mauvaises peuvent influencer effectivement cette zone-là du cerveau.
Puisque notre cerveau est plastique.
Voilà. Le tout est évidemment, en cherchant, ce qui va être très compliqué, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de différences individuelles, et donc ça va être assez compliqué de le faire. D'ailleurs, on a vu récemment que peut-être qu'il y avait la localisation de la tête et des jambes n'était pas toujours la même chez des gens, donc le pauvre homoncule est de plus en plus difforme.
Donc ne regardez peut-être pas cet homoncule difforme, et pour tout savoir sur le mystère du pénis et du clitoris, je rajoute sous le pied, presque résolu, mais pas tout à fait. En tout cas, c'est à lire dans un dossier plus large sur le cerveau droit et le cerveau gauche dans le numéro de novembre de Cerveau et Psycho, dont nous avons aussi, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, quelques exemplaires à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Autour de la question comment la science infuse et se diffuse maintenant sur 2 et 4 roues avec vous, cher Thomas Delauzier, avec cette immense question en une qui fait aussi le dossier de Science et Vie de ce mois de novembre. Comment roulerons-nous
demain, avec évidemment l'interdiction annoncée par le Parlement européen de la vente des voitures thermiques dès 2035. Il y a urgence à penser les défis du tout électrique et même à imaginer autre chose, à repenser nos mobilités avant de s'y atteler ensemble scientifiquement. Petit retour sur les innombrables fausses bonnes idées et autres voitures du futur. On a vraiment tout essayé. La preuve dans ce mix à s'envoyer en l'air, signé Thibaut Baduel.
Prendre l'air en automobile consistait jusqu'ici à parcourir, tête au vent, les routes à petite allure. Aux États-Unis, terre des inventions originales, cela signifie maintenant rouler vers le ciel au volant d'un airphibien. L'automobile prend ses ailes et en un tournement, vous êtes emporté en toute sécurité par cette moderne et confortable machine volante.
Les voitures, je suis contre. À cause de la pollution.
Vous n'avez pas une Honda Civic 89 ?
Les États-Unis sont toujours à la pointe du progrès. Cet étudiant américain qui prépare une thèse sur les transports miniatures a réinventé la patinette pour illustrer sa thèse. Un repose-pied, quatre roulettes, un petit moteur, voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. Voilà à quoi passe son temps un étudiant américain. On commence à comprendre pourquoi certains savants d'outre-Atlantique s'inquiètent du retard que prennent les États-Unis dans la conquête de l'espace interplanétaire. Pendant ce temps, notre étudiant est content de lui. Il arrive le premier à l'université avant tous ses camarades.
À mi-chemin entre le vélo et la voiture, voici le cyclospace. Une drôle de calèche 5 places fonctionnant à la puissance de vos mollets. Car oui, c'est bien vous qui devez pédaler, mais rassurez-vous, vous pouvez aussi faire appel à une petite batterie rechargeable d'appoint et à ses panneaux solaires situés sur le toit.
Au premier regard, elle a tout d'une voiture de sport taillée pour la route. Mais 2 minutes suffisent à ce véhicule 2 places au look futuriste pour déployer ses ailes et son immense potentiel. Oubliez les embouteillages à condition d'intégrer sur toutes les routes des pistes de décollage et d'atterrissage. Mais aussi d'avoir le droit de piloter ce nouveau véhicule qui exige à la fois un permis de conduire et un brevet de pilote.
C'est génial. Je vois moins, mais ça a l'air génial.
Le transport de demain, c'est aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est sûr que le transport de demain, c'est aujourd'hui. Thomas Delosier, dans Science et Vie, vous attelez d'ailleurs un peu plus sérieusement, un peu plus scientifiquement à cette question. Comment nous déplacerons-nous? Comment roulerons-nous demain?
C'est ça, parce qu'il y a un texte qui est passé au Parlement européen, qui a été entériné cette année, qui dit que dès 2035, il sera interdit de vendre des véhicules thermiques neufs. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on pourra continuer à rouler avec nos véhicules thermiques, on ne pourra pas en acheter des neufs, on pourra les revendre. Mais il faudra faire attention, il faudra faire une transition.
Et donc, passer au quoi? Au tout électrique?
Au tout électrique, c'est... Alors, on ne va pas avoir de piste d'atterrissage sur
c'est
nos
ça,
routes.
Il n'y aura pas de piste d'atterrissage. On n'aura pas besoin du brevet de pilote en même temps que le permis de conduire.
Ça va être d'accord, beaucoup plus simple, ouais. Ça va être beaucoup plus doux. Donc, on aura des voitures électriques. Sauf que passer de quelques voitures électriques, aujourd'hui, c'est 1% du parc automobile français, passer à 100% en 2035 puis en 2050, ça va être très compliqué. Ça va avoir... On va avoir plusieurs défis pour y arriver, des défis techniques, mais aussi des défis sociaux. On va avoir des défis techniques tout simplement parce qu'il va falloir produire énormément de voitures. Et pour produire ces voitures, il va falloir beaucoup de métaux rares.
C'est ça. Hein.
On sort du siècle du pétrole, on va rentrer dans le siècle des métaux.
Mais si on reproduit exactement la même chose qu'avec le pétrole, on n'est pas sorti de l'auberge, électriquement parlant.
C'est ça qui est compliqué. C'est que, alors déjà, il faut savoir que la voiture électrique pollue moins, déjà, que la voiture thermique. Il n'y a plus de débat sur ce sujet-là. Construire une batterie émet un peu plus de CO2 pour une voiture électrique qu'une voiture thermique, parce que tout simplement, elle est beaucoup plus grosse. Cependant, une fois qu'elle roule, elle est beaucoup plus verte, elle émet beaucoup moins de CO2. Donc, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recycler. Ah. Il y a énormément de métaux qu'il faut recycler, parce qu'en fait, si on passe au tout électrique en Europe, puis dans le monde entier, on va épuiser d'ici à 2050 89% de nos ressources en cuivre. On va épuiser tout notre lithium. Donc, il va falloir trouver des filières qui ne sont pas encore construites.
Recycler le cuivre et le lithium, c'est notamment, ça. Donc apprendre à le recycler.
C'est ça. Il va falloir aussi repenser notre consommation d'électricité, puisqu'en fait, déjà, on parle de blackout en 2022, avec une production qui est limite. En 2035, puis en 2050, quand il y aura 15 millions, 20 millions, 30 millions de voitures électriques, ça va être encore plus compliqué. Donc là, il va falloir repenser les bornes de recharge, il va falloir repenser la consommation, il va falloir des batteries qui tiennent plus longtemps. Et finalement, la voiture électrique en 2035, c'est une invitation à repenser notre mobilité tout entière.
Et clairement. Donc ce ne sont pas que des défis technologiques, ce sont des défis sociétaux.
Exactement.
C'est ce que vous
disiez. Exactement, puisqu'en fait, on va devoir mieux rouler, en quelque sorte. Mm-hmm. On va devoir rouler moins, on va devoir se poser la question, est-ce qu'on prend la voiture seule? Est-ce qu'on emmène des gens avec mm-hmm. nous? Est-ce que la voiture est vraiment nécessaire pour un trajet de moins de 7 km ou de moins de 10 km?
Est-ce qu'il faut encore des voitures individuelles?
Exactement, est-ce qu'il faut encore des voitures individuelles? Est-ce que, et même plus largement, est-ce qu'il faut encore prendre l'avion? Est-ce qu'il ne faudrait pas mm-hmm. repenser nos vacances? Est-ce qu'au lieu de partir 2 semaines à l'autre bout du monde, on ne partirait pas en bateau? Sur un trajet plus long, mais pendant plus longtemps, 1 mois, 2 mois.
Ah, et on aurait beaucoup plus de vacances. Là, j'ai les yeux qui s'illuminent. Quelles pistes ont vos préférences à vous? Alors, sur terre, sur mer ou dans les airs, cher Thomas?
Bah déjà, il y a le
train
de nuit.
Moi, je suis assez pour le bateau. Ah oui, le train de nuit, c'est bien.
Le train de nuit, c'est génial. Il y a des lignes qui vont s'ouvrir en Europe. Mmh. On va pouvoir. Parce que, en fait, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on va aussi les rendre plus sexy. On va devoir changer notre imaginaire aussi. On a jusqu'à présent un imaginaire de la voiture qui est la liberté, qui est la séduction, qui du coup sont des grosses voitures, etc. On va devoir remettre le vélo, le rendre plus sexy. On va pas le mettre sous le pied, mais on va devoir arriver à rendre que le voyage en train, le voyage en bateau soit grand luxe, un peu comme on imagine l'Orient Express, un peu comme on imagine.
C'est ça. Et puis qu'on va réapprendre à prendre notre temps et à lire. Exactement. Moi, j'adore le bateau et j'adore le train. Ça roule pour nous. Je vous remercie, cher Thomas Delosier. C'est à lire un grand dossier. Comment roulerons-nous demain dans Science et Vie de ce mois de novembre, les défis du tout électrique ou comment inventer autre chose. Il est disponible en kiosque et nous avons bien sûr un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, avec en cadeau bonus, un petit morceau que j'adore. Bon, il parle de voiture, évidemment. Il est signé Marvin Pontiac. Oui, Pontiac, il s'appelle. Et le morceau s'intitule « Small Car ».
This is a story about a place very, very, very far away from here, where tiny little farmers live with their families. Small 1-inch long barking dogs, and they make their cars out of cans. These farmers thought that there must be a way to know why the stars are shining, and they wanted to see, and they decided to go on a mission.
Small Car, Marvin Pontiac sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse depuis la Terre jusque dans l'espace et retour, Guillaume Langin. Dans Ciel et Espace, vous tenez une formidable chronique qui devrait intéresser tous nos auditeurs et auditrices astronomes amateurs, ils sont nombreux sur le continent, une chronique intitulée « Aux astres citoyens » dans laquelle vous revenez sur plusieurs observations collectives d'occultation et en France notamment, avec un projet de science participative astronomique, un vrai record qui a permis d'observer comment un astéroïde éteint une étoile, c'est ça?
Oui, absolument, Caroline. Alors, j'ai couvert pour Ciel et Espace, pour cette rubrique dédiée à l'astronomie participative aux astres citoyens. J'ai également co-organisé et participé à une expérience collective géante, assez extraordinaire. C'était dans la nuit du 22 au 23 octobre 2022. Et ça a concerné une bonne partie de l'Europe, tous les citoyens du sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Suède, en passant par la France. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un astéroïde dénommé Eurybate est passé devant une étoile qui l'a fait disparaître, littéralement, pendant une dizaine de secondes pour les mieux placés. Un phénomène assez surprenant.
Ah oui.
Et qui, en étant observé et mesuré par des dizaines, des centaines de personnes, permet d'en apprendre plus sur cet astéroïde Eurybate, qui n'est pas n'importe quel astéroïde parmi le 1,2 million d'astéroïdes qu'on connaît dans le cosmos. C'est un astéroïde qui va avoir une visiteuse dans quelques années. En 2027, la sonde spatiale de la NASA, Lucy, va le survoler. Elle est déjà en route, elle est déjà dans l'espace entre la planète Terre et Jupiter, sur l'orbite de laquelle se trouve l'astéroïde. Mais avant de réussir son survol de l'astéroïde en 2027, on veut en savoir le plus possible. Et donc, dans la nuit du 22 au 23 octobre, c'était l'occasion rêvée pour tout citoyen
d'observer au fond, sous tous les angles détenteurs quoi, d'une lunette astronomique.
Une petite lunette, un petit télescope. Voilà. L'étoile occultée était suffisamment brillante pour être visible dans des instruments, disons, d'astronomes débutants. Mais c'était l'occasion rêvée de participer à la science et à la recherche et même d'aider une mission spatiale de la NASA.
C'est ça, d'aider une mission spatiale, parce qu'en fait, plus on regarde ces astéroïdes sous tous les angles et plus on en apprend. C'est en lien aussi, et vous aviez aussi couvert dans Aux Astres Citoyens, des occultations, des observations d'occultations qui ont lieu grâce à Maram Kéré et à tous les astronomes collectifs d'astronomes d'Afrique de l'Ouest et de France, justement pour observer, alors c'était pour la sonde New Horizons, c'était pour d'autres sondes, depuis le Sénégal. Donc au fond, ces phénomènes d'occultation sont très intéressants à observer et font appel à de l'astronomie participative.
Oui,
vraiment.
Alors, vous avez raison, donc, là pour cette occultation du 23 octobre 2022 en Europe, on a battu Ciel et Espace et l'Association française d'astronomie et tous les organisateurs ont battu un record de mobilisation. On a reçu près de 250 rapports d'observation, beaucoup d'entre eux bloqués par les nuages, il faut bien le dire. La météo a été très adverse, il a fallu être tenace. Enfin, moi, j'ai participé, j'étais dans une trouée nuageuse de quelques minutes. J'ai eu la chance de voir l'étoile dans cet intervalle de temps très restreint. C'était absolument haletant. Au bord d'un champ de betteraves, quelque part dans l'aube, dans la campagne. C'est là que je me situais cette nuit-là, à 4h du matin, au terme d'une nuit à suspense, un suspense presque insoutenable. Mais donc là, c'était un record de mobilisation formidable, mais vous avez raison de le citer. C'est pas la première expérience du genre, on en compte d'autres, certaines qui ont eu lieu sur le territoire africain, d'autres dans d'autres parties du monde, où quelques dizaines de participants y ont pris part. Et en fait, ce sont des formidables occasions de participer à la recherche et de faire autre chose de son instrument, de son télescope ou de sa lunette, que de simplement observer visuellement les planètes. Parfois, on tourne un petit peu en rond, c'est un peu les mêmes cibles auxquelles on a accès. Si l'on veut franchir le cap, mettre le pied à l'étrier de la science, la rubrique Aux Astres Citoyens dans Ciel et Espace, que je tiens tous les deux mois, propose des programmes d'observation comme cela.
Challenges.
Je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Le numéro d'avant, je proposais d'observer, de prendre une photo de la planète Jupiter, pouvant servir de la même manière à une autre mission de la NASA, la mission Juno, qui est une sonde spatiale autour de Jupiter actuellement, qui n'a pas vu sur Jupiter H24. Donc, il faut aider cette sonde à observer Jupiter quand elle ne la voit pas.
Eh bien, je renvoie à tous nos auditeurs et auditrices astronomes amateurs, tous ceux qui ont gagné une lunette astronomique et qui la partagent sur le continent, sur votre chronique. Donc, aux astres citoyens. Magnifique, mais je ne retrouvais plus le nom. Aux Astres Citoyens, Guillaume Langin, c'est dans Ciel et Espace. Merci infiniment d'être venu nous le rappeler et on va continuer de suivre, de lire votre chronique Aux Astres Citoyens, Ciel et Espace, dont nous avons évidemment quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, et j'en profite pour vous rappeler que le prochain éphéméride mensuel du Ciel d'Afrique, ce sera le 14 décembre prochain sur notre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez gagner, si vous nous les demandez, en précisant bien votre adresse postale sur notre page Facebook ou par mail, tous les magazines scientifiques dont nous avons parlé aujourd'hui. Autour de la question, c'est fini, justement pour aujourd'hui. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. On se retrouve lundi pour de nouvelles interrogations à partager, si vous le voulez bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.